Non, je ne sais pas pourquoi.
Vous m'entendez faiblement. Et dit c'est faible.
Oui.
Augmente un peu. C'est mieux? Allô?
Oui, allô?
Oui, c'est mieux?
Bon, légèrement, mais c'est bon. On va y aller.
Voilà. Ahmed, il dit c'est faible.
Augmente c'est faible, hein?
Voilà. Lui, vous, on vous entend nettement. Il dit c'est moi. Moi, ma voix. Augmente ma voix. Reste en ligne, professeur.
D'accord.
Mais ma voix encore basse. Ma voix est basse, Ahmed. Oui, mais je suis en train de... Voilà.
Ah là, c'est bon.
Ça, c'est
bon.
Mieux. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Bon, on va commencer. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Professeur Alban Auré, bonjour.
Bonjour, monsieur Jean-Claude Comé.
Professeur Alban Auré, une monnaie, on en parle, elle est virtuelle pour l'instant, la crypto-monnaie. C'est une monnaie qui est utilisée hein, sous d'autres cieux, notamment dans des pays développés. La crypto-monnaie, qu'est-ce que c'est?
Oui, monsieur Jean-Claude Comé, la crypto-monnaie est une forme de monnaie numérique. Elle rentre dans ce qu'on appelle en économie l'ensemble des monnaies complémentaires. À côté des monnaies officielles. Mmh. Et la crypto-monnaie permet donc aux individus de transmettre une valeur dans un univers numérique. Mmh. Et le terme crypto-monnaie est un mot qui comprend, qui est créé à l'aide des termes cryptographie et monnaie. Mmh. Donc les crypto-monnaies utilisent de nombreuses techniques cryptographiques pour sécuriser les transactions entre utilisateurs. Mmh. Voilà, donc... leur fonction, globalement, c'est de servir de système d'argent électronique qui n'appartient à personne. On parle d'un système décentralisé parce qu'il n'y a pas de banque centrale qui contrôle le système. Mmh. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc les crypto-monnaies sont des systèmes décentralisés où on a un sous-ensemble d'utilisateurs qui peuvent changer les règles sans attendre un consensus. Et les participants au réseau des nœuds exécutent dans des logiciels valables qu'on parle de cryptographie qui les connectent à d'autres participants afin qu'ils puissent partager des informations entre eux.
Alors,
mais ce n'est pas nouveau, hein, parce qu'on a eu des monnaies complémentaires dans l'histoire. Ce n'est pas nouveau.
Justement, on va parler un peu de l'histoire, mais simplement expliquer en quoi cette monnaie diffère de la monnaie qu'on connaît. On connaît les billets, on connaît les pièces de monnaie. En quoi la crypto-monnaie est différente de la monnaie utilisée communément?
Oui, et la crypto-monnaie est différente de la monnaie utilisée. Et si on veut bien comprendre, c'est d'expliquer ce que c'est qu'une monnaie complémentaire.
Oui.
Puisque la crypto-monnaie rentre dans l'ensemble des monnaies complémentaires. Mmh. C'est une monnaie qui peut être utilisée, d'abord, comme je l'ai dit, en complément de la monnaie officielle. Et nul n'a obligation de faire ou de recevoir un paiement en monnaie complémentaire. Et ça repose alors sur des accords entre acheteurs et vendeurs, entre l'offre et la demande. Mmh. Et alors que la monnaie étatique est régulée par un système bancaire avec une banque centrale et autres, et la crypto-monnaie n'a pas cette régulation, elle a cette flexibilité. Et nous, alors, nous parlons de monnaie décentralisée. Mais en réalité, ce système a existé déjà en Suisse. Voilà, à partir de la crise de 1929, il y a eu des entreprises suisses qui ont essayé de contourner les blocages de la crise en se mettant en accord pour dire... il y a eu ces entreprises qui disent, bon, voilà... comment pouvons-nous créer des transactions sans passer par le système bancaire officiel?
Alors justement, pour aller dans ce même sens, quel est le contexte justement de la création de ces monnaies que vous appelez complémentaires, notamment du cas de la crypto-monnaie? Dans quel contexte
le contexte, c'est un contexte de dire, d'abord, l'objectif, c'est comment contourner le système bancaire ou financier officiel et comment réduire les coûts de transaction, par exemple les commissions sur les transactions, le fait d'ouvrir un compte, les intérêts prélevés. Alors comment réduire les coûts de transaction, comment faciliter l'accès au financement dans un environnement où tout le monde n'est pas bancarisé. Donc voilà des préoccupations qui ont intéressé ceux qui sont derrière la création de la crypto-monnaie. Et L'historique montre que ça existait longtemps avant, lorsque des entreprises cherchaient justement à faciliter des transactions en dehors du système bancaire officiel.
Alors, mais est-ce légal? Est-ce légal, professeur, cette monnaie-là? La crypto-monnaie, on se pose la question.
Oui, et la légalité est telle que cela dépend juste de la confiance entre individus. Donc, nous sommes dans une économie libérale au niveau mondial et les individus sont libres, vous voyez, de faire des échanges. Je prends le cas simple, par exemple, quelqu'un dit, bon, moi j'ai besoin d'argent pour acheter des marchandises à l'entreprise B, qui elle-même a besoin d'argent pour payer son principal fournisseur, qui est l'entreprise C. On peut créer un système de crédit mutuel entre les trois entreprises A qui achètent chez B et enregistrent donc un débit chez B et B a un correspondant et B achète chez C. Donc, ce que moi j'achète chez B, B peut l'utiliser en inscrivant que, par exemple, A me doit, peut l'utiliser pour acheter chez C. Donc, c'est en ABC, cette confiance existe. Et A, B et C, les individus A et B et C ou les entreprises A, B et C sont libres, vous voyez, d'échanger entre elles, ces entreprises-là, et de créer un crédit mutuel. Et la crypto-monnaie repose sur ce système de confiance entre les acteurs et qui accepte librement, bien sûr, de mettre à contribution leurs ressources pour des épargnants comme pour des emprunteurs, de manière à faciliter des financements et des investissements.
Alors, la particularité, vous l'avez souligné, c'est que lorsqu'on parle de crypto-monnaie, il n'y a pas une banque centrale comme on a pour les autres monnaies. Alors, est-ce que cela n'est pas un danger quand une structure supra n'a pas un contrôle justement sur cette monnaie-là?
Oui, justement, la crise des crypto-monnaies depuis deux mois avec tout ce qu'on voit comme la chute des cours de ces crypto-monnaies remet justement en exergue la question, suscite davantage la question de la régulation de ces crypto-monnaies. Et il y a beaucoup de sociétés qui commencent à faire faillite, il y a des épargnants qui perdent leurs ressources. Et nous voyons donc dans les informations en circulation des individus aux États-Unis qui ont mis près de 350 000 dollars dans les achats de crypto-monnaies et qui aujourd'hui voient leurs ressources s'effondrer totalement. Donc cela ramène à l'ordre du jour la question de la régulation. Parce qu'il y a eu de grandes prises de risque de pouvoir rémunérer fortement des épargnants et avoir des taux d'intérêt faibles pour des emprunteurs. Et à un moment donné, on se rend compte qu'on n'a plus de ressources pour faire face à ce système-là. Et comme il n'y avait aucun contrôle, vous voyez. Mais après tout, ça, c'était une crise de société et les États sont obligés de commencer à légiférer là-dessus. Et c'est ce qui se passe aux États-Unis, comme dans l'Union européenne, vous voyez, où déjà il y a des législations en cours pour voir comment encadrer, comment avoir un régulateur de ce type de monnaie qui pourrait avoir des avantages, oui, mais en même temps qui contiennent des gros risques sur les individus et sur même des entreprises.
Alors, le caractère volatile, hein, justement, de cette monnaie-là, justement, il y a, comme vous l'avez noté, hein, il y a des opportunités, mais il y a surtout aussi des conséquences, la perte subite donc, de ces ressources-là. Mais on s'étonne, il y a certains pays qui s'y intéressent, notamment pour citer un pays africain, donc la Centrafrique, qui a décidé vraiment de considérer ce type de monnaie. En tant qu'économiste, est-ce que ce n'est pas un risque pour cette économie de la Centrafrique, un pays qui est en guerre?
Aujourd'hui, avec les développements récents de la chute des cours des crypto-monnaies, il apparaît très clairement que si des pays africains veulent adopter, il y a des pays, nous avons l'Afrique du Sud qui est l'un des pays leaders, nous avons le Nigeria, nous avons le Kenya qui sont déjà dans la crypto-monnaie depuis quelques années. Mais si des pays veulent vraiment utiliser cette forme de monnaie afin, bien sûr, de favoriser, je dirais, l'accès au financement par les personnes un peu partout, même en milieu rural, à travers des systèmes informatisés et autres, alors il est important de regarder cette régulation, les régulations qui se mettent en place dans les pays en développement et de voir comment aussi s'approprier, réadapter et développer des formes de régulation pour ne pas créer, je dirais, des cas de faillite, de déstabilisation du système économique, parce que quelque chose qui devrait être un avantage, une opportunité, peut constituer un grand risque tel que c'est en train de s'observer aujourd'hui. Bien sûr que bon, ce qui est recommandé en période de crise de ce type-là, c'est de demander aux épargnants, à ceux qui détiennent des actifs et autres, de garder le calme. Vous voyez, sinon leur précipitation pourrait engendrer l'effondrement total. Mais pour un pays comme la Centrafrique et d'autres pays africains, c'est certainement de veiller à une régulation. C'est certainement de tirer les leçons de ce qui se passe ailleurs.
Et justement, tirer les leçons de ce qui se passe ailleurs, pour rester dans l'actualité, le président ivoirien a reçu en audience un acteur mondial de cette crypto-monnaie, le PDG donc, de Binance, une structure donc, qui est à fond dans la crypto-monnaie. Quelle interprétation vous en faites? Est-ce qu'éventuellement le pays peut explorer cette voie?
Vous parlez de la Côte d'Ivoire. Ce qu'on peut dire, c'est que il y a des avantages certains à la crypto-monnaie qui sont bien connus. Vous voyez, c'est bien sûr la facilitation de l'accès, de l'accès au crédit, les transactions entre les individus sans passer par des systèmes bancaires, puisqu'on regarde les taux de bancarisation assez faibles dans nos économies. Mmh. Alors il est aujourd'hui nécessaire de penser à des solutions alternatives. Mais en même temps, l'actualité montre qu'il faut de la prudence. L'actualité montre qu'il faut de la régulation. L'actualité montre qu'effectivement, il faut pouvoir faire une bonne analyse économique des avantages et des inconvénients, des simulations possibles pour voir comment l'adopter. Vous voyez, comment l'adopter, mmh. Et certainement, qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme environnement, socio-économique qui permettrait alors une réussite de l'utilisation de la crypto-monnaie en Côte d'Ivoire. Mmh. Mais il faut savoir que, bien sûr, des Ivoiriens ont des crypto-monnaies.
Justement, j'allais en venir. Il y a des clubs qui se créent justement pour former à la crypto-monnaie. Oui. Cette approche-là, est-ce qu'elle permettrait aux citoyens, donc lambda, de mieux connaître cette monnaie pour amener à son utilisation?
Oui, ce qui est important aussi, c'est de communiquer. De communiquer sur les avantages, les inconvénients, de communiquer sur tout ce système-là de crypto-monnaie et de pouvoir informer suffisamment les Ivoiriens pour que les individus prennent les décisions en ayant suffisamment de connaissances des avantages et des risques, vous voyez, et de pouvoir encadrer cette évolution-là, parce que avec la chute des crypto-monnaies, on voit sur les réseaux sociaux des personnes en Côte d'Ivoire qui commencent à se plaindre, qui commencent à indiquer que ce n'est pas une solution viable, qu'il y a trop de risques. Donc voilà pourquoi il faut pouvoir informer, il faut pouvoir dire aux gens « allons-y doucement, et voilà comment il faut le faire », et ainsi de suite. Voilà, et il faut pouvoir aussi demander à ces structures de gestion de ces crypto-monnaies de pouvoir mettre en place des systèmes qui puissent permettre justement, parce que sur les marchés financiers, c'est la gestion des risques. Donc comment ils gèrent les risques et comment ils anticipent sur ces risques, comment ils essayent de les minimiser pour que ça serve davantage que ça ne desserve.
Alors, selon les informations que nous avons, pour parler de crypto-monnaie, on a l'impression que c'est une seule monnaie, mais selon le CoinMarketCap, il existe 19 893 crypto actifs ou crypto-monnaies. Cette multiplicité de monnaies, est-ce une opportunité ou une menace selon vous, professeur?
Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que les grandes crypto-monnaies, le Bitcoin et Ethereum, par exemple, et qui ont beaucoup de participants, qui mobilisent beaucoup de ressources, ont des systèmes assez complexes. Donc, ils se créent de plus en plus, puisque c'est des chaînes, c'est des réseaux. Vous voyez, donc, il y a plusieurs...
Qu'on appelle blockchain, généralement, en termes anglais.
Voilà, des blockchain. Mm-hmm. Donc, il y a plusieurs, des milliers de personnes connectées à travers des logiciels. Et donc, les transactions même sont ralenties parce qu'il y a des systèmes de validation interne avec des clés publiques mm-hmm. et des clés privées que personne ne fait connaître par les autres. Donc, il est important de dire qu'il se crée de plus en plus des petits groupes de crypto-monnaies. Mm-hmm. Et comme je l'expliquais, c'est comme vous créez une mutuelle vous voyez, entre des individus qui se font confiance pour dire « bon, et même ce qu'il faut savoir, c'est que les monnaies complémentaires même ont existé dans certains pays pour dire dans un milieu local, le système bancaire n'est pas suffisamment développé. Moi, je suis un enseignant-chercheur. Une heure de cours pourrait correspondre à une heure de jardinage. Donc, je mets une heure de cours que je revends contre le jardinier qui viendra faire une heure d'activité. Mm-hmm. Donc, c'est une question de confiance et d'échange de services, vous voyez, d'échange de monnaie, d'échange de services. Donc ici, on peut créer des petits groupes, ils disent, ok, nous avons confiance en nous, voilà notre système, et voilà, donc on se partage nos ressources pour ceux qui sont en besoin d'investissement, pour ceux qui ont de l'épargne à déposer, et on régule cela entre nous, sur la base de la confiance, sur la base, bien sûr, des cryptographies et autres, et on évolue. Donc voilà pourquoi on va retrouver plusieurs petits groupes de crypto-monnaies.
Mmh. Alors, professeur, pour terminer, la dernière question que j'aimerais vous poser, faut-il avoir peur, oui ou non, donc, de la crypto-monnaie pour nos économies, notamment pour la Côte d'Ivoire?
Mais, je peux vous dire que les crises financières ont existé, mais les systèmes financiers ne se sont pas écroulés définitivement. Mmh. Vous voyez? La crypto-monnaie, c'est assez récent, hein, son grand développement à partir de 2009. Donc, c'est assez récent. Et on se dit que, effectivement, ça a évolué très, très vite avec une hausse de 800% de certains cours à un moment donné. Donc, effectivement. Mais en même temps, aujourd'hui, on se dit, regardons les opportunités que ça offre dans nos économies avec des taux d'alphabétisation relativement faibles. Les taux de bancarisation relativement faibles, l'accès au crédit, et toutes les PME considèrent comme la première contrainte à leur développement, l'accès au crédit, avec des personnes à capacité de financement, mais qui ne croisent pas toujours ceux qui ont des besoins de crédit. Voilà. Donc tout cela, dans ces genres d'économie en développement, la crypto-monnaie peut être une forme de solution. Mais en même temps, cela contient des risques parce que c'est des individus qui échangent et nous remarquons aujourd'hui le fait de pouvoir faire trop d'investissements ou bien trop de prêts sans des garanties en arrière peut entraîner l'effondrement du système. Mm-hmm. Donc, oui, en Afrique, on n'a pas besoin d'avoir peur, ou bien je dirais non, on n'a pas besoin d'avoir peur, mais ce qui serait important, c'est de mettre en place, au regard des leçons apprises, au regard de tout ce qui se passe un peu partout dans le monde, et nous avons bien fait d'attendre, parce que comme ça, on peut apprendre des autres. Nous avons bien fait de jouer la carte de la prudence dans nos pays africains. Alors, on tire les leçons et on voit quel est le minimum de régulation qu'on pourrait mettre en place pour accompagner ce système, pour décentraliser la monnaie, et bien sûr, et permettre à ce système d'évoluer sans pour autant, je dirais, affecter négativement le système officiel. Parce que des études scientifiques montrent que, par exemple, les monnaies complémentaires se développent beaucoup plus là où, et nous avons des crises dans les systèmes officiels, là où le système officiel n'arrive pas à combler les besoins des individus ou des entreprises. Et là, nous avons les monnaies complémentaires qui se développent. Donc, ces monnaies complémentaires qui permettraient de réduire les coûts des transactions de la monnaie, ces monnaies complémentaires qui n'ont pas besoin de systèmes sophistiqués, centralisés, ce sont des avantages et ce sont des opportunités pour nos pays en développement. en besoin de financement. Maintenant, comme je l'ai dit simplement, et encadrons cela, et évoluons avec petit à petit, avec le système officiel, et ça devrait nous permettre d'avoir des économies plus dynamiques.
Professeur Alban Auré, je vous remercie.
Merci, M. Jean-Claude Comé.
Bonne journée à vous.
À vous pareillement.